Ouellet.
En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Ah, je trouve qu'il y a des... Il y a des sujets importants, puis je trouve que souvent dans les médias, puis en même temps, chacun son créneau, chacun, on est dans un pays libre, là, les gens font ce qu'ils veulent avec leurs émissions puis leurs réseaux. Je trouve que souvent, on esquive des sujets vraiment primordiaux. On vient parler de démographie, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Ou on en parle, peut-être aussi que ça n'intéresse pas les gens, mais moi, ça m'intéresse. C'est des sujets vitaux pour la suite des choses, pour la continuité de notre confort, de notre modernité, il y a des choses comme ça incontournables. Je sais que des fois, ça pince, c'est un peu désagréable, c'est pas des sujets sexy, puis on n'est pas dans la grosse émotion, mais il faut absolument jaser de ces affaires-là. Je vous parlais de démographie. L'autre sujet qu'il faut surtout pas éviter, surtout au Québec et au Canada, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'énergie. L'énergie, c'est vital. L'énergie d'une nation, c'est ce qui fait en sorte qu'elle va pouvoir progresser ou qu'elle va stagner ou qu'elle va même régresser. Présentement, on me dit qu'à Cuba... C'est un problème.
Un tantinet.
On me dit que le fait qu'on a de la misère à avoir de l'énergie, du gaz, du pétrole, ça crée un méga problème. Tu sais, c'est au cœur de nos choses. On l'a peut-être pris pour acquis. C'est peut-être pour ça qu'on... Ouf, tu sais, parler de ça, est-ce vraiment nécessaire? Moi, je pense que oui. Vous savez qu'Hydro-Québec, un fleuron, quelque chose qu'on a bâti dans les années, quoi, réfléchi, imaginé, fin 50, dans les années 60, 70... Et ben depuis ce temps-là, je pense qu'on est en déficit d'entretien, en déficit d'investissement. Et là, on réalise, on nous dit, là, ça va être des milliards. Puis je dis des milliards, probablement des centaines de milliards pour la suite des choses avec l'intelligence artificielle, les demandes en énergie qui augmentent. C'est bien là, de nous faire une espèce de speech sur baisser votre maison de 2 degrés l'hiver, mais je ne suis pas sûr qu'on va s'en sortir avec ça. Il va falloir... faire de l'énergie. Il va falloir en créer. Et il y a des tabous. Là, Hydro-Québec a rouvert une centrale au gaz dernièrement. Il a fallu qu'un journaliste tombe là-dessus. Là, parce qu'il n'y a pas eu de ruban coupé. Il n'y a pas eu de célébration. Parce qu'on sait très bien que brûler du gaz, c'est pas à mode. Les gens n'aiment pas ça. Mais on nous dit, par contre, ça va nous permettre de peut-être survivre là, des pointes hivernales puis peut-être éviter d'importer de l'énergie des États-Unis. Bref, sujet complexe, retour du nucléaire aussi dans les discussions. Puis j'aime bien ça jaser avec notre prochain invité. Ça fait quelques fois qu'on lui parle. Fellow et spécialiste en énergie au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal. C'est M. Yvan Klisch qui est là. M. Klisch, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Écoutez, sur le front énergétique, beaucoup de choses se passent, autant au Québec que sur la scène mondiale. Donc, ça maintient l'intérêt vif que j'entretiens pour ce secteur névralgique.
Ben puis merci de le faire, parce que comme je vous dis, je comprends que des fois dans les médias, c'est pas très émotion. Là. C'est pas très on va parler au cœur des gens, mais en même temps, est-ce que j'ai tort quand je dis que l'énergie, la disponibilité de l'énergie est directement liée à l'évolution de l'économie puis à la progression de nos sociétés?
Ah, complètement, complètement. Même des études, entre guillemets, scientifiques, font un lien absolument étroit. Vous ne pouvez pas vous développer comme nation, hausser votre qualité de vie si vous n'avez pas de l'énergie. D'ailleurs, la hausse de la qualité de vie dans tous les pays est directement reliée à une hausse de la consommation énergétique. C'est presque deux courbes qui peuvent se superposer. On l'a vu notamment avec la Chine. La Chine s'est beaucoup développée depuis 25-30 ans et ça a correspondu à une hausse tout aussi significative de sa consommation d'énergie.
On parle d'investissement au Québec là de à peu près. Ben, j'ai entendu le chiffre de 100 milliards. J'ai même entendu des affaires qui font presque peur là, des 3 puis des 400 milliards d'investissements pour les prochaines décennies au Québec. Puis je vois que le plan d'action du Québec actuel, là, ça peut changer. Ça a été présenté en 2023 par le gouvernement et Hydro-Québec. On nous parle d'éolien. On nous parle d'hydraulique, on nous parle de panneaux solaires pour augmenter la production. Moi, je veux bien, la vertu, j'aime ça, puis je veux qu'on soit le plus propre possible. Mais est-ce réaliste de penser qu'on va plancher sur de l'éolien et du solaire puis vous venez de le dire, là, pour assumer notre continuité dans le futur?
Ben, en fait, ce qui remet la discussion, notamment sur le nucléaire, dans l'actualité, c'est que le gouvernement a publié un document qui s'appelle le plan intégré de gestion des ressources énergétiques, qui veut tracer la route sur vraiment le développement énergétique du Québec pour les 25 prochaines années. Donc là, on ne parle pas d'un horizon de 10 ans, on parle des 25 prochaines années. Donc c'est la prochaine génération. Et évidemment, à court terme, je dirais 10 ans, on n'a probablement pas nécessairement besoin de nucléaire au Québec, mais assurément que par la suite, après 2035, ben la question va se poser. Et puis, il y a un enjeu important pour nous, c'est que la province voisine de l'Ontario, elle mise sur le nucléaire, autant que nous, on mise sur l'hydroélectricité.
Ouais.
Eux se basent beaucoup sur le nucléaire et ils vont développer ce qu'on appelle des petits réacteurs modulaires, c'est-à-dire des réacteurs de plus petite taille. Et ils vont être parmi les premiers au monde à le faire. Et puis, si ça marche, ben c'est sûr que ça va potentiellement devenir intéressant pour le Québec dans un horizon là, de 10 à 20 ans.
Et on va surveiller. Et c'est plus performant. Puis je pense qu'au Québec, on a peut-être eu à un moment donné une mise en pause de l'éducation sur l'énergie nucléaire. Puis on dirait qu'on est resté dans notre espèce de « le nucléaire, c'est dangereux, c'est mal, les gens vont avoir des bras dans le front », puis des affaires que j'ai entendues complètement. On est plus là, mais les gens sont restés avec cette mentalité-là parce que juste quand même, le chiffre est important. Là. Vous venez de parler de l'Ontario. 50 % de toute l'électricité en Ontario, puis il faut comprendre qu'ils sont plus que nous, là, quand même. Sont 12 ou sont
12
combien?
Millions. 12 millions.
Donc,
ouais.
La moitié de leur énergie provient de 3 centrales nucléaires. T'sais, on n'aurait pas besoin d'en faire 20, là. C'est pas ça l'idée. C'est quand même performant, le nucléaire.
Oui, on n'en parle plus au Québec, mais ailleurs dans le monde, il s'en fait du nucléaire. On pense à la France, bien sûr. La Finlande aussi a implanté une centrale nucléaire, les Émirats arabes unis. La Russie, la Chine aussi a développé beaucoup de nucléaire et pour elle en développe encore pour combler ses grands besoins énergétiques. Donc, on est un peu illoté, mais dans d'autres nations, on mise sur le nucléaire pour assurer une alimentation en base et fiable en électricité. Alors, moi, je pense qu'au Québec, c'est pas une filière qu'on doit écarter. Puis de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on peut l'écarter parce qu'après, dans 10 ans, on va quand même pas mal avoir écrémé beaucoup de potentiel solaire, pas solaire, mais éolien. On va implanter aussi des panneaux solaires. On va probablement encore miser sur notre hydroélectricité. Mais à un moment donné, les meilleurs sites, les meilleurs endroits vont avoir été utilisés. Ouais. Et puis c'est là que le nucléaire va peut-être devenir une option qu'il va falloir envisager. Ouais. Absolument. Puis le nucléaire, ce qui est une de ses qualités, c'est que tu n'as pas besoin d'installer ça très loin des grands centres de consommation. Comme nous, nos centrales, elles sont situées à 1000 km. Je parle du bassin de la baie James.
Ça fait beaucoup de poteaux et de pylônes à surveiller. Là.
Exactement. Alors que le nucléaire, là, ça demande un réseau de transport qui est moins élaboré. Puis il faut rappeler qu'on en a déjà eu une centrale nucléaire, donc la centrale de Gentilly, qui fait son travail. Il n'y a pas eu d'incident majeur, mais on a décidé à une époque où on ne pensait pas qu'elle allait avoir une augmentation de la demande en électricité de la fermer. Si je me souviens bien, c'était en 2012.
Corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'au Canada, on aurait tout ce qu'il faut pour développer l'énergie nucléaire à long terme. C'est-à-dire que, à moins que ça ait changé, on a de l'uranium en Saskatchewan, dans le bassin d'Athabasca. Il est transformé et converti en Ontario. C'est comme ça qu'on alimentait Gentilly 2 à l'époque. À contrario de la France qui, elle, dépend de l'uranium russe, est-ce que dans le sens où on veut établir des éoliennes un peu partout, des panneaux solaires qui sont principalement des technologies d'outre-mer, on pense à la Chine, est-ce qu'il n'y a pas un non-sens dans le fait de miser beaucoup sur l'éolienne, les panneaux solaires et pas miser sur l'énergie nucléaire alors qu'on a tout ici pour développer ça pendant longtemps?
Oui, absolument. Le Canada est un ou sinon le plus grand producteur mondial d'uranium.
Exact.
On se sert de l'uranium pour produire de l'électricité. Là. Donc, c'est vraiment le matériel essentiel. C'est un peu comme l'eau là, pour l'hydroélectricité. L'uranium accomplit la même fonction pour le nucléaire, donc oui, effectivement, c'est quand même aussi rassurant si au Québec, on veut se relancer la filière, ben, de savoir qu'on a un fournisseur pas loin qui peut nous en fournir en bonne quantité de façon fiable. Alors oui, moi je pense qu'encore une fois, pour le moment, vous savez, il y a comme une réaction, je dirais, un petit peu épidermique là, au Québec contre le nucléaire. On en avait parlé.
Comme beaucoup de choses quand même.
Comme beaucoup de choses. Et puis, M. Legault, moi, je pense, de façon un peu maladroite, il y a un an ou deux, fermé la porte là à une discussion autour de cette filière-là en disant qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Mais il n'y a personne dans le monde là qui crie de joie là, à avoir une centrale nucléaire. Il faut surtout, ce qu'il faut faire, c'est de l'éducation, rappeler que c'est quand même une forme d'énergie qui est très fiable, qui existe depuis des décennies. Oui, il y a eu des accidents malheureux, mais par contre, il ne faut pas oublier les centaines de milliers d'heures que ces centrales-là ont fournies en électricité auprès de plusieurs populations et de manière quand même, en général, très fiable. Alors, et regardez l'Ontario, on est à côté d'eux. S'il arrivait un accident nucléaire, c'est sûr que peut-être avec les vents, on pourrait être affecté, mais pourtant, on a l'impression qu'il n'y a aucun danger parce que c'est pas au Québec. Mais ça reste qu'on est quand même pas très loin de centrales nucléaires au Québec.
Parlez-en aux autres pays autour de Tchernobyl. Là, on nous dit que ça peut être extraordinaire. L'autre source d'énergie mondiale importante qui fait beaucoup frémir les Québécois, évidemment, c'est le gaz, le pétrole. Et vous parliez tantôt de sources fiables, locales, abondantes. On est dans le même scénario, là. On en a du gaz naturel, l'Alberta nous pompe du pétrole et on s'obstine toujours à développer des oléoducs, transporter ça à travers le pays. Là, on a ouvert une centrale au gaz en cachette. C'est sorti des médias. Les gens sont pas contents, alors qu'on apprend que ça va nous éviter d'importer de l'énergie beaucoup trop chère des États-Unis, qui, by the way, font des faux charbon, là. Faut juste pas l'oublier. Ouais. Ça va nous permettre de survivre à nos pointes hivernales, là, plutôt que de faire du lavage à 2 heures du matin. Il y a quelque chose là aussi de très diabolisé. Là. C'est le gaz naturel, c'est utilisé partout sur la planète. Je comprends qu'on aime bien être vert. On l'est déjà, by the way. Je pense que par émission, là, par capita, émission de CO2, là, on est les meilleurs en Amérique du Nord. Il n'y a pas une porte à ouvrir là, peut-être facile et rapide. Je vous ai entendu dire hier que les États-Unis sont partis de zéro production de gaz naturel à sont autonomes en énergie maintenant grâce au gaz naturel en moins de 10 ans. Il y aurait quelque chose à faire là?
Bien, en fait, les États-Unis avaient du gaz naturel, mais ils entrevoyaient au milieu des années 2000 qu'il n'y en aurait plus. Donc, ils avaient commencé à concevoir et même à mettre en place, à construire des terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié. La révolution des gaz de schiste a complètement renversé la situation à 180 degrés. Puis là, il y avait même une interdiction d'exporter du gaz en 2015 et le président Obama a levé cette interdiction. Et maintenant, les Américains sont devenus le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié. Alors oui, la même chose, le Canada et notamment en Alberta, eux, ils ont beaucoup de gaz, mais au Québec, il y a un moratoire, donc on a fermé, on a aussi verrouillé la porte là, de ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement, il y aurait du potentiel gazier au Québec, qu'on pourrait l'exploiter au lieu de l'importer des États-Unis et de l'Alberta. Mais encore une fois, ce ne sont, je pense, malheureusement, des débats qu'on souhaite pas faire, que souvent les politiciens verrouillent. Mais je veux quand même vous rappeler que l'Agence internationale d'énergie dit que les besoins mondiaux en énergie vont beaucoup être comblés par le gaz au cours des prochaines années. C'est la seule énergie fossile pour laquelle on donne un bel avenir. Et puis, on dit oui, il faut faire du solaire, de l'éolien, du nucléaire, mais aussi du gaz naturel, parce qu'effectivement, c'est une source d'énergie qui est disponible et qui est moins polluante que le charbon. Alors, mais encore une fois, vous l'avez mentionné, au Québec, malheureusement, on verrouille souvent ces débats-là, comme on verrouille aussi des débats sur l'interfinancement, le fait qu'on est subventionné, hein, les résidences au Québec, là, par l'industriel, le commercial. Quand on veut un peu soulever ces questions-là, c'est le gouvernement verrouille les possibilités de discussion là-dessus. Donc, il y a une espèce de manque de lucidité là, face à ces questions-là. Ils sont souvent, effectivement, on ferme la porte, alors que je pense qu'on devrait avoir une discussion beaucoup plus logique et saine et mature autour de ces enjeux-là.
En terminant, puis une réponse courte parce qu'on n'a plus le temps, mais est-ce qu'on a un peu moins d'idéologie, un peu plus de pragmatisme, peut-être?
Bien, tout à fait. Moi, c'est ce que je prône tout le temps. C'est que, oui, il faut être beaucoup plus pragmatique à regarder les avantages, les inconvénients, et non pas passer là par le tordeur toute idée qui apparaisse pas tout à fait emporter l'adhésion. Alors moi, je pense que De toute façon, écoutez, à un certain point, je pense que quand on va justement avoir développé beaucoup d'éoliers, d'hydroélectricité, puis avec des panneaux solaires, l'efficacité énergétique, le Québec va quand même durer là, et perdurer. Et là, à un moment donné, il va peut-être falloir avoir on va être forcé à être beaucoup plus pragmatique et lucide face à notre devenir énergétique.
Monsieur Klisch, merci d'apporter vos lumières dans le show. C'est un plaisir. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, monsieur. Au plaisir.
Merci. Yvan Klisch, fellow spécialiste en énergie au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal. C'est long, mais eux autres, ils résument ça en cérium. Merci beaucoup. On revient.
Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.